Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on accueille Yoran Devresse. Il est coach sportif. On va parler avec lui de bonnes résolutions, évidemment, en ce début d'année. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne, ça nous aidera bien, et à liker cette vidéo si elle vous a plu. On commence direct avec Yoran. Salut Yoran.
Salut, comment tu vas?
Ça va très bien. Tu vas m'aider. En ce début d'année, tu vas m'aider.
Je t'écoute.
À essayer de tenir mes bonnes résolutions, faire plus de sport. Comment est-ce qu'on peut tenir une résolution comme ça? Parce que chaque année, je me dis, je vais faire plus de sport. Et finalement, j'en fais pas.
Beaucoup de personnes se le disent, hein, l'air de rien. Mais je pense que le plus simple, c'est de commencer mollo. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent commencer en faisant beaucoup. Beaucoup d'un coup. Se dire, je vais y aller une, deux, trois, quatre, cinq fois, commencer un plan, un régime, tout faire d'un coup. Et finalement, craque parce que c'est trop compliqué, qu'ils mettent de côté leur vie sociale ou autre. Je pense qu'il faut trouver un petit peu ce juste milieu. Commencer peut-être deux à trois fois par semaine le sport et peut-être commencer à avoir un régime où on va, je dirais, enlever déjà ce qui peut potentiellement leur causer du tort. Donc les sucreries, les boissons trop sucrées et pouvoir remplacer ça par des soda light, par exemple, ou par des assiettes un petit peu plus équilibrées, sans pour autant commencer à compter, à regarder à tout ça, pour par la suite y venir petit à petit.
D'accord. Donc, commencer soft,
c'est ça.
C'est ce que tu conseilles à tes clients.
C'est
alors, t'en as beaucoup en ce début d'année?
J'en ai toujours énormément. J'ai énormément de demandes, forcément. Hein, c'est les bonnes résolutions, donc tout le monde veut se reprendre en main. Donc oui, j'ai énormément de demandes. En ce début d'année.
Sur 10 clients, combien s'y tiennent? Plus ou moins,
hein. Ouf. Alors moi, je fonctionne par format de trimestriel, donc par 3 mois. Et je crois que sur 3 mois, tout le monde s'y tient, mais le nombre de renouvellements, il doit être du 6 sur 10.
6 sur 10 quand même?
Ouais, quand même.
Donc tu les dégoûtes pas?
Non. Le but est justement de faire en sorte qu'ils adhèrent à ça pour le restant de leur jour. Donc le restant de leur vie, qu'ils puissent mettre l'alimentation saine, équilibrée et le sport dans leur quotidien.
C'est ça. On va parler de nutrition juste après. Mais on va parler d'abord de sport.
Oui, bien sûr.
Quel sport est-ce que tu conseilles pour s'y remettre?
Celui qui fait plaisir. Celui qu'on apprécie faire. Rentrer dans une salle de sport, ce n'est pas une obligation. C'est conseiller en pratique supplémentaire d'un sport pour se renforcer ou autre. Mais le plus important, c'est de faire quelque chose qui nous plaît.
Toi, tu donnes des programmes surtout faits pour les salles, finalement.
Oui, c'est ça. Moi, c'est un peu plus mon but. J'ai également été préparateur d'une équipe nationale de volley dans la ville dans laquelle j'étais quand j'étais plus jeune. Mais principalement, ouais, c'est en salle de sport.
Quel type d'exercice est-ce que tu conseilles de faire en premier lieu?
Pour une personne qui débute son activité, donc sa remise en forme, je mettrai un petit peu plus un accent sur les exercices polyarticulaires. Donc polyarticulaire, c'est-à-dire que ça agence plusieurs articulations sur un mouvement. Un développé couché, du tirage bûcheron ou de la presse, ou tous des exercices ainsi, pour mobiliser un maximum d'articulations et un maximum de groupes musculaires.
C'est ça, pour essayer d'uniformiser l'exercice alors. Combien est-ce que tu demandes à tes clients de faire de jours de sport par semaine?
Alors, je n'oblige jamais un client à faire autant de jours de sport que je le voudrais. Il faut que ça puisse rentrer, comme je l'ai dit précédemment, dans un quotidien. Donc, il faut que la personne puisse faire son activité physique et que ça rentre dans son mode de vie. Je ne demanderai jamais à une personne de faire autant de séances de sport que je le souhaite si c'est impossible pour elle de le faire. Parce que forcément, bah, il va y avoir ce qu'il appelle un problème au niveau de l'adhérence du client dans sa programmation et ça ne va pas matcher. Justement, ça va finir par le dégoûter, de se dire « je dois faire autant de sport pour avoir des résultats », alors que non, pas forcément.
C'est ça, ok. Une remise en forme, ça peut être une fois semaine alors, ou c'est un peu court?
C'est un peu court. Je mettrais sur un minimum quand même de 2 à 3 fois semaine et ça peut aller jusqu'à 6 fois, 7 fois pour les plus courageux.
D'accord, mais en termes de remise en forme, les premiers qui arrivent, tu leur donnes pas 6 fois semaine, si?
Si, ça peut totalement se faire. Ça va dépendre de leur récupération, de ce qu'ils sont capables de faire, de ce qu'ils ont également envie de faire. J'essaie toujours de faire le juste milieu entre excitation de vouloir reprendre un objectif de remise en forme et ce qui est véritablement possible dans leur quotidien. Je me dis, oui, je peux faire du sport 6 fois semaine, mais qu'en réalité, je me rends compte que avec le quotidien qu'ils vivent, donc que ce soit leur travail, que ce soit leur ménage, que ce soit les enfants également, ils n'ont la possibilité de le faire que 4 fois. Bah, le programme est ajustable pour rendre ça le plus simple possible pour eux.
Tes clients, ils vont de, je suppose, ils sont de tous les âges. T'en as des très jeunes, des très vieux.
J'ai mon plus jeune client, je crois qu'il doit avoir 21 ans. Et la personne que je coach, qui est la plus âgée, doit avoir quelque chose comme 60 ans.
Est-ce que tu conseilles de ne pas se faire suivre au départ? Si on n'est pas habitué aux salles de sport.
Non. Il faut obligatoirement se faire suivre. C'est à peu près comme dans tous les sports. Hein. Il y a toujours un entraîneur, peu importe le sport. Quand vous faites du foot, vous avez un entraîneur au foot. Du volley, c'est pareil. Du hockey, c'est pareil. Du tennis de table. Enfin, dans n'importe quelle discipline, quand vous commencez quelque chose, vous avez une personne professionnelle qui vous suit. Et c'est absolument pareil pour tout le monde. Ça ne te viendrait pas à l'idée de te soigner toi-même. Tu vas voir un médecin. Tu vois, quand tu es blessé, tu vas voir un kiné. Bah, c'est exactement pareil pour le sport. Quand tu commences le sport, tu vas avoir un coach.
Qu'est-ce que ça amène en plus ?
Ça amène des connaissances, hein, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas connaisseur des sports, de ce qu'on appelle de la biomécanique de mouvement également, donc comment le corps fonctionne dans l'espace, de ce qui est possible de faire en fonction de sa morphologie, donc qu'elle soit osseuse, qu'elle soit musculaire. Et donc forcément, ça évite tous les risques de blessures, ça permet de pratiquer en sûreté et de pouvoir faire exactement ce qu'il faut réellement faire pour avoir des progrès.
Alors c'est intéressant parce que toi, tu personnalises évidemment tes programmes. Si je vais sur un tuto YouTube en disant je pèse 70 kilos, je mesure 1m80, est-ce que ça va me sortir des bons programmes ?
Non.
Pourquoi ?
Non, parce que malheureusement, le nombre d'informations qui va être demandé par ce genre de tutoriel n'est pas assez poussé que pour pouvoir donner un programme réellement adapté à la personne qui va le demander. C'est des programmes en fait tout faits dans une base de données qui vont simplement être distribués à la personne en fonction de moyenne. Moyenne de poids, moyenne d'âge, moyenne de... Je sais pas si le programmeur qui a mis cela en place a décidé que pour toutes les personnes qui veulent se remettre en forme 3 fois par semaine, ce sera tel programme. Vous allez tous avoir la même chose, en fait, tout simplement. Alors que chaque personne va avoir un programme qui doit avoir un programme qui est différent, adapté à ce qu'il peut faire, à ce qu'il est capable de faire également, et évolutif forcément sur le long terme.
Il doit s'adapter à quoi ? Par exemple, le programme, parce qu'on se dit le poids, la taille, peut-être d'autres choses.
Oui, il y a énormément d'informations, ne serait-ce que pour le programme sportif. Il faut regarder forcément la taille de la personne et quelque chose dans lequel moi je me spécialise, c'est ce qu'on appelle la morpho-anatomie. Donc la morpho-anatomie, c'est comment la personne est conçue. Donc, que ce soit, par exemple, s'il a des clavicules longues, une cage thoracique épaisse, des bras longs, des bras courts, des avant-bras qui sont peut-être longs, si on appelle ça une personne qui est longiligne ou briviligne. Donc, ça va être par rapport au niveau segmentaire, à la taille des segments. Et tout ça va avoir une incidence énorme sur les recrutements musculaires et sur les positionnements que la personne devrait adopter pour pratiquer son sport en toute sûreté et en ayant, bien évidemment, l'évolution la plus rapide possible.
Si je veux perdre 10 kilos, combien de temps est-ce que ça va me prendre et en combien de séances ?
Alors, ça va dépendre de tout à chacun. Perdre 10 kilos en faisant uniquement du sport, ça va prendre énormément de temps parce qu'il va falloir augmenter, si la personne ne calcule pas ce qu'elle mange, il va falloir énormément augmenter son activité physique pour implémenter ce qu'on appelle un déficit calorique. Dans le cadre où une personne suivrait un plan alimentaire, ça va dépendre d'à peu près tout le monde. Ça peut prendre 3 mois comme 6 mois, par exemple.
Il y en a beaucoup qui viennent avec cette demande de perdre des kilos. C'est la majorité qui veulent perdre des kilos.
La majorité, oui, exact.
Et t'en as d'autres qui veulent simplement se remettre en forme, je suppose.
Oui, j'en ai d'autres qui veulent se prendre de la masse musculaire parce qu'ils se trouvent trop maigres ou qu'ils ont des objectifs à prétention relativement élevés, ce qui est très, très bien. mais j'ai à peu près tout. J'ai à peu près tout.
Ok, donc des profils qui veulent perdre du poids, se remettre en forme, prendre de la masse. T'en as d'autres, des profils ?
Des profils pathologiques, donc des personnes qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, des personnes qui ont des pathologies physiques aussi, donc des handicaps. J'entends par là, j'ai coaché une personne qui avait une main en moins, par exemple, ou une personne qui avait une hanche artificielle. Donc, tous des types de personnes
okay, ainsi. Ça dépend. Alors, la salle n'est pas incompatible avec un autre sport ?
Pas du tout.
Tu conseilles même ?
Elle est même conseillée, ouais. C'est ça, elle est conseillée.
Ok, l'autre sport, ça peut être quoi ? La
absolument
nage, le vélo,
tout. Nage, vélo, boxe, volley. En fait, il faut savoir que dans chacune des disciplines, on va avoir des groupes musculaires qui vont être fortement sollicités. Et le fait de faire de la salle de sport sur le côté est pour combler le déficit qui va être mis en place. Bon, par exemple, on dit souvent, les footballeurs, ça se claque souvent les ischios. Pourquoi ? Parce qu'ils vont toujours être en flexion-extension avec le genou, toujours être en appui dessus. Et donc, ils vont avoir un recrutement très très important de leur quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Et pour travailler en salle de sport, il faut travailler sur l'équilibre donc du quadriceps et de l'ischio, ce qu'on appelle de l'agoniste et de l'antagoniste, pour pouvoir rééquilibrer et diminuer les risques de blessure.
Ok, d'accord. Donc, ça dépend un peu du sport aussi, le programme que tu vas faire, du sport secondaire alors.
Exactement.
Ou principal.
Ou principal.
Voilà. Alors, en parallèle de tout ça, le sport, bah, y a la nutrition. Tu me disais, si je veux perdre 10 kilos, il ne suffit pas que du sport. Il faut aussi réadapter sa façon de manger.
Ouais.
Est-ce que tu t'adaptes aussi, là, ou si je te dis, bah, j'aime quand même bien le vendredi soir sortir avec mes potes et boire quelques bières, etc. Tu vas t'adapter à tout ça ?
Tout est adaptable, mais il faut qu'il y ait... Moi, j'appelle ça un petit peu un jeu d'équipe. Je vais faire des concessions dans ce que je vais mettre en place pour toi, mais il faut que tu fasses des concessions dans ce que tu fais dans ton quotidien. Si tu es venu me trouver, c'est que ton quotidien n'est pas celui auquel tu aspires. Parce que bah, ton corps ne te plaît plus et forcément, tu as eu le corps que tu as eu parce que tu as fait des choix sur ton quotidien, tu as fait des choix sur ta vie. Et du coup, il va falloir que tu te remettes en question vis-à-vis de ça et que tu dises, ok, bah, je claquais 10 bières le vendredi, bah, peut-être que je vais en claquer que 2. Pourquoi ? Bah, ça me permet d'avoir ma vie sociale, ça me permet d'être avec mes amis, mais d'un autre côté, ça me permet d'atteindre mes objectifs et d'avoir une vie forcément plus équilibrée et plus saine sur le plan nutritionnel.
C'est ça. Et en parallèle, alors, il y a toute cette alimentation. Est-ce qu'il faut réellement manger des graines pour maigrir ?
Non, absolument pas. Il y a énormément d'idées reçues là-dessus. Je pense que la plus courante, c'est de stopper les glucides le soir, donc de ne pas manger de féculents le soir. C'est pour moi une aberration sans nom. Ça fait des années et des années que c'est déjà plus le cas. Il faut manger, par exemple, des glucides à chacun de ses repas, que ce soit le matin, le midi, le soir, aux collations, avant d'aller dormir, c'est super important.
Attends, mais je te comprends plus là, parce qu'on m'a déjà dit de plus manger de pâtes le soir. Comment est-ce qu'on fait alors ?
C'est justement le problème. En fait, les gens, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une balance énergétique. Donc, ce que tu vas apporter via ton alimentation, vs ce que tu vas dépenser dans ton quotidien. À partir du moment où la dépense est supérieure à l'apport, il y aura toujours un déficit calorique. Donc, il y aura toujours une perte de poids. Peu importe ce qu'on mange. Alors, je ne préconise pas de manger de mauvaises choses. Hein. Je ne dis pas qu'il faut aller au fast-food tous les jours. Tant qu'on n'en fait qu'un et qu'on est en déficit calorique, ça fonctionne. Oui, bah là, c'est les états de santé qui vont être mauvais. Je dis juste qu'il faut avoir un certain raccord entre le fait de pouvoir justifier une alimentation qui sera équilibrée tout en y incorporant des aliments plaisir dans le quotidien de la personne, afin qu'elle puisse vivre en fait tout simplement avec ça toute sa vie. On ne peut pas demander à quelqu'un de manger des graines, du riz, du poulet à chacun de ses repas. C'est impossible, c'est pas tenable. Sur le long terme, c'est pas tenable. Il faut pouvoir faire des plaisirs, il faut pouvoir faire des concessions et il faut pouvoir manger pleinement tout au long de ses repas tant que les apports énergétiques sont remplis.
C'est intéressant ça. Est-ce que tu es en train de me dire que plus je fais de sport, plus je peux manger ?
Bien sûr, totalement.
Ben voilà, c'est la clé.
Totalement. Pas souvent facile à mettre en place, mais ça peut être une solution, ouais.
Super, ok. J'ai trouvé comment faire. Très bien. Où est-ce que tu as appris tout ça ?
Alors, j'ai suivi un cursus donc en haute école. Donc, j'ai fait 3 ans d'études à l'HEPL et au Rivageois. Donc, J'ai suivi ce cursus-là, qui est le cursus coach sportif, spécialisé dans la préparation physique et la gestion de l'infrastructure. Et par la suite, je me sentais pas de travailler directement. Je sentais qu'il me manquait des connaissances un peu plus spécialisantes dans le domaine dans lequel je voulais exercer. Et j'ai suivi une année supplémentaire d'une formation qui est donnée en français, mais qui vient de Norvège à la base, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Bayesian Bodybuilding. Et donc là où j'ai pris absolument tout ce qui était sur la biomécanique du mouvement et l'aspect nutritionnel, justement.
D'accord. Bodybuilding, donc, t'entraînes aussi des personnes pour devenir bodybuildeuse ?
Ou bodybuilder, du coup, oui. Et c'est d'ailleurs le sport dans lequel, mon sport de prédilection. Celui que je pratique et celui dans lequel je prépare le plus souvent.
Ok. Et comment est-ce que tu les prépares, justement, ça ? C'est parce que quand on regarde un corps bodybuildé, ça paraît un peu surnaturel, tu vois ? Est-ce que c'est bon pour le corps d'aller jusque-là ?
Alors, d'aller dans des phases qu'on appelle des off-saisons. Donc, le off-saison, c'est en dehors des périodes de compétition. C'est le fait de pouvoir, justement, pouvoir manger beaucoup, de pouvoir s'entraîner pour avoir un certain esthétisme corporel demandé sur scène en fonction des critères des catégories. Après, si on parle sur le in-saison, donc... durant la saison, durant la préparation des compétitions, je ne dirais pas que c'est bon, non. Descendre à des pourcentages aussi bas, que ce soit pour un homme ou pour une femme, sur le long terme, c'est délétère. Pourquoi ? Parce qu'on va forcément diminuer ses taux hormonaux à un moment donné. Moins on doit manger, moins on peut apporter. Moins on peut amorter, moins le corps fonctionne, forcément. Ça peut provoquer énormément de troubles aussi, hein. C'est quelque chose qui est fort caché dans ce milieu-là, mais beaucoup de personnes sont sujettes au TCA, donc troubles du comportement alimentaire. Parce que leur préparateur a mal géré les choses ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment psychologiquement fortes que pour endosser la charge de la préparation. Donc je dirais pas que c'est un, comme tout sport en fait qui met le corps à rude épreuve, c'est pas quelque chose que tu peux faire toute l'année. Tu peux pas être en une saison toute l'année, c'est impossible. Il faut pouvoir avoir des moments de relâchement, des moments de repos pour le corps. C'est très important, mais ça reste un sport magnifique.
Qu'est-ce qu'il y a de magnifique qu'est-ce que tu trouves magnifique dans ce sport ?
Le dépassement de soi, surtout. C'est moi, pour avoir fait une prépa, pour avoir préparé des gens, on en apprend énormément sur soi-même, sur sa résilience, sur sa capacité à pouvoir gérer des choses, à pouvoir se connaître, tout simplement, tout durant le processus. Il y a la faim qui va se faire ressentir, on va avoir des crampes, pas forcément aux muscles, mais des crampes, ce qu'on appelle des crampes nocturnes. On va se réveiller avec la faim, va falloir ne pas craquer, donc être suffisamment assidu et avoir une certaine, du coup, résilience par rapport à cela, tout en continuant à devoir travailler, s'entraîner et avoir un minimum de vie sociale autour de soi. Et je pense que c'est quelque chose qui en apprend énormément sur notre façon d'être, sur notre capacité à pouvoir... gérer énormément de choses. Et puis, j'ai toujours été passionné sur les physiques un peu plus musclées, un peu plus esthétiques, athlétiques, si je peux dire ça comme ça. Donc, pour moi, c'est toujours un réel plaisir, quoi.
C'est intéressant, tu parles beaucoup de mental. Et évidemment, il faut énormément de mental pour s'y tenir, pour éviter la procrastination, on remettra demain. Comment est-ce qu'on évite cette procrastination ?
Je pense que tout vient de la différence entre, justement, la motivation et l'assiduité. Une personne qui est motivée à faire quelque chose, c'est une personne qui va se lancer dans quelque chose. Mais la motivation, on le sait, elle est fluctuelle. Un jour, t'es motivé, un jour, t'as pas envie, l'autre jour, t'as super envie, puis tu vois que t'as pris 10 kilos, oh, tu vas avoir encore plus envie, puis tu vas voir que tu perds un peu, mais pas assez vite à ton goût, t'es moins motivé. Bon, ça, c'est la motivation. Elle est fluctuelle, dépendamment de ce qu'on fait. Faut pouvoir se dire que la motivation permet de démarrer quelque chose, mais ce qui va nous permettre de la continuer, c'est l'assiduité. En fait, tout simplement. C'est le fait de pouvoir se tenir, de savoir qu'on fait quelque chose pour avoir tel objectif, qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie de le faire, faut le faire. C'est comme ça.
Est-ce qu'on peut se permettre, certains jours où la motivation n'est pas au beau fixe, de ne pas le faire, finalement ?
Bien sûr, bien sûr. Je dis toujours à mes clients, je préfère que vous ratiez 2 à 3 séances, ou même 4 séances sur l'année, plutôt que vous disiez... que vous permettez de dire oui, mais je ferai ça demain ou je le ferai pas tout court et de tout simplement pas le faire. Et mes programmations d'entraînement sont faites de façon à ce que la personne puisse non pas suivre une programmation à la semaine, mais une programmation au format. Donc imaginons qu'ils ont 4 entraînements à faire par semaine. Tant qu'ils ne m'ont pas bouclé les 4 entraînements, ils ne repassent pas au numéro 1 de la programmation. Alors que si c'était programmé sur une semaine, bah, si j'ai fait que 3 entraînements sur la semaine, tant pis. La semaine d'après, je repasse au numéro 1. Oui, mais il manquera toujours la 4e séance. Le corps ne fonctionne pas en termes de semaine. Le corps n'est pas basé en disant « Oh, on est dimanche. Lundi, la semaine, elle reprend. » Non, le corps, il vit simplement au jour le jour. Mmh, ouais. Faut pouvoir penser ainsi aussi.
T'as combien de clients ?
J'aurais pu dire le nombre très exact, mais disons, grosse louche, 50.
T'as certaines personnes que tu vois en physique et d'autres que tu vois en numérique, alors que tu suis en numérique.
Oui.
Explique-nous un peu ça. Donc, en physique, on s'imagine bien, tu vas à la salle avec eux.
C'est ça.
En numérique, comment est-ce que ça se passe ?
C'est ce qu'on appelle du coaching online. En fait, je fonctionne avec une application. C'est pas forcément le cas de tous les coachs. Donc, il y a d'autres coachs qui fonctionnent avec des Google Drive, par exemple, où ils mettent leur programmation dessus. Le but, en fait, est que la personne vienne nous trouver sans avoir de barrière sur la frontière du pays, tout simplement. Donc, dans mon cas, j'ai des clients qui viennent de l'étranger. J'ai beaucoup de clients qui viennent de l'étranger. Et comment ça se passe? Bah, tout simplement, la personne prend contact avec nous, que ce soit via un formulaire sur un site internet, sur les réseaux sociaux ou autres, nous pose des questions, regarde les tarifications dépendamment du support que nous avons à notre disposition et par la suite va remplir un questionnaire avec son nom, son prénom, enfin toutes les informations administratives et puis toutes les informations liées au coaching. Donc le questionnaire propre à ce que chacun des coachs décide de demander dedans. Et sur base de ça, le coach va créer une programmation sur l'application qu'il aura choisi d'utiliser, avec forcément le nombre d'entraînements, les exercices à faire, les vidéos ou les images associées à l'exercice, le nombre de répétitions, le temps de repos, les tempos d'exécution, etc., etc., etc. Pareil pour l'alimentation. Et dépendamment de ce que le client aura, enfin de ce que le coach aura décidé de faire, pardon, les bilans pourront être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, 3 semaines, tous les mois.
Et comment est-ce que vous faites le bilan? Vous filmez? Et tu leur demandes de se filmer?
Alors, moi, dans le bilan, ce que je leur demande, c'est pas spécifiquement de se filmer, pas du tout. Ils vont devoir se filmer sur les exercices qu'ils vont faire en salle, m'envoyer pour que je puisse corriger et leur donner des conseils sur leur posture et forcément des outils pour l'améliorer. Si le client a des difficultés de compréhension avec ce que je lui dirais par écrit ou par vocal, moi-même, je vais à la salle de sport, je prends la vidéo sur le mouvement et je lui envoie en lui disant « Voilà, toi, tu l'as fait comme ça, moi, je voudrais bien que tu le fasses ainsi. » J'ai déjà créé une base de données vidéo qui me permet de pouvoir répondre à certains types de demandes et certains types de clients. Mais sinon, sur le reste du bilan, c'est tout simplement ce qu'on appelle un check-in à faire.
Okay.
C'est ils ont un questionnaire à remplir sur comment s'est passée leur séance, leurs difficultés, leur état physique, la nutrition, pareil. Comment ils se sentent psychologiquement par rapport à tout ça, le nombre de pas qu'ils ont fait, et je parle même de choses un petit peu plus personnelles qui vont énormément m'aider sur leur défécation, par exemple, la solidité de leur selle, en gros, sur le nombre d'heures qu'ils ont dormi également, et je leur demande par la suite une pesée, donc leur poids, leur mensuration, donc tour de bras, tour de cuisse, etc., et des photos pour pouvoir voir les avant-après au fur et à mesure du suivi.
Ces programmes numériques, tu peux les faire pour des personnes qui veulent faire ça à domicile, qui ne veulent pas du tout se rendre en salle?
Oui, oui. Que ce soit moi ou que ce soit d'autres coachs, normalement, on a tous la possibilité de pouvoir gérer ça. Oui. Moi, dans tout cas, dans l'application que j'utilise, j'ai la possibilité de faire des programmes à domicile. Ouais, totalement.
On peut faire du sport chez soi sans acheter de matériel?
Oui, mais à un moment, on va se retrouver à un palier de stagnation. Parce que bah forcément, pour qu'un muscle puisse grossir ou qu'un muscle puisse progresser, faut avoir ce qu'on appelle une surcharge progressive, quelle qu'elle soit. Donc que ce soit par le nombre de répétitions, que ce soit par la charge de travail, en respectant forcément des normes et des études qui ont été menées sur le sujet. Mais une personne qui ne fait que du poids de corps va se retrouver à un moment limité sur sa pratique, forcément.
C'est quoi l'objet à acheter pour faire du multifonction, du sport chez soi?
Des haltères.
Des haltères.
On sait absolument tout faire avec des haltères. Et des élastiques. C'est okay. Les deux choses qu'il faut avoir pour pouvoir s'entraîner.
Haltères au niveau du kilo, on est sur du 1, 2, 5.
Dépendamment de tout à chacun.
Ouais.
forcément, si on veut faire un développé couché, on va devoir prendre des haltères qui vont être un petit peu plus conséquentes que de 5 kilos.
Ouais.
Et encore, dépendamment de tout individu, de tout type de personne.
Ça doit séduire des personnes un peu plus introverties, qui ne souhaitent pas passer une certaine barrière de la salle de sport avec d'autres personnes et être suivies. Ça doit aussi plaire à des personnes qui ont peut-être un peu moins de budget. Ça coûte certainement moins cher.
Bien sûr, totalement.
Ça coûte vraiment moins cher ou un peu moins cher?
Alors, ça va dépendre de tout à chacun. Dans mon cas, moi, les séances en salle de sport sont à pack de 10, donc pack pour un mois, 520 euros.
Donc 520,
on est à 52 euros de l'heure, en gros,
ouais,
pour 10 séances.
Ouais.
Alors que le suivi distanciel complet, donc moi je parle 520 sans l'alimentation, juste ma présence en salle.
Mmh.
Le pack distanciel, donc le pack complet alimentation plus sport, forcément, est actuellement à 165 euros le mois.
Donc c'est nettement moins cher.
C'est nettement moins cher. On a quand même une différence d'un petit peu moins de 400 euros.
Ouais, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus accessible, mais ça fonctionne tout aussi bien.
Ça fonctionne tout aussi bien, ouais.
Ouais. Tu as des exemples de personnes qui ont eu des belles évolutions alors qu'elles se faisaient suivre uniquement numériquement?
Oui, j'ai déjà mon équipe d'athlètes que je prépare pour les concours. J'ai préparé les championnats de Belgique récemment, en novembre dernier, où l'un de mes athlètes a d'ailleurs terminé premier de sa catégorie. Un seul a terminé premier, le deuxième a terminé troisième, et la dernière a terminé deuxième ou troisième
de
sa catégorie.
Ok, super.
Pour la Belgique, c'est déjà plutôt pas mal.
Athlète bodybuildeuse et bodybuilder, alors.
C'est ça, à des niveaux différents. Et également la personnalité fraîche que j'ai pu coacher, qui avait forcément, au vu des critiques qu'il y avait eu sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde est un peu au courant, comme quoi il avait pris un peu de poids, etc. Sur lesquelles on a directement travaillé, pour d'ailleurs le show qu'il a donné récemment à Liège.
Fraîche le rappeur, alors.
Le rappeur, c'est ça, on parle bien de lui. Où il était totalement en forme, physiquement parlant.
Il est constant, Fraîche?
Il est constant, il a des moments, un petit peu des passes où le sport et lui, c'est pas trop ça. Comme il aime bien le dire, il se dispute. Mais en règle générale, c'est quelqu'un qui fait quand même pas mal de sport. Il fait quand même pas mal de sport, pas toujours avec moi, forcément, parce qu'il a d'autres activités sur le côté. Hein. Il a un mode de vie qui est totalement différent des autres. Mais on essayait de se voir une à deux fois par semaine. Et puis forcément, il y a eu un moment, les grandes vacances, tout le monde part en vacances, tout le monde est un peu plus relâché de ce côté-là.
Puis il y a énormément de concerts, etc. De son
énormément,
côté,
lui, c'est les périodes où il part le plus en tournée. Hein,
ouais.
C'est le moment où il fait le plus beau, donc il est invité à peu près partout en concert en extérieur. Donc forcément, très très compliqué de le suivre à ce moment-là. On a fait les choses comme on a pu le faire. Et puis par la suite, on reprend le petit bout de chemin une fois que la saison est en quelque sorte terminée, qu'il retourne principalement au studio. Et donc là, on reprend nos petites habitudes une à deux fois par semaine, plan alimentaire repris en main, et puis c'est reparti, quoi.
T'aimes bien suivre ce genre de profil où il faut s'adapter suivant la saison, etc. Très occupé, profils très occupés comme ça.
Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans le sens où c'est forcément un nouveau milieu dans lequel je dois, moi, pouvoir m'adapter à ces besoins. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans le sens où ça m'apporte du neuf, ça m'apporte du nouveau. Je ne suis pas dans une monotonie. D'ailleurs, avec aucun de mes clients, je ne fonctionne avec un tel, je ne fonctionne pas avec un autre. J'ai toujours une différenciation, que ce soit de mon comportement, de ma façon de parler, de ma programmation, de la façon dont je fais les choses. Je suis un peu un caméléon sur ça, je m'adapte aux clients relativement facilement.
Ok, chouette. C'est quoi tes profils préférés que tu aimes le mieux suivre?
Forcément, j'aurais tendance à dire les athlètes. Hein. C'est ce qui, moi, me passionne le plus.
Parce que tu vas atteindre une certaine perfection,
c'est ça, c'est
un
vraiment,
degré de perfectionnisme. Quoi.
Exactement. C'est pas simplement apporter un bien-être à la personne, mais là, on va vraiment chercher le détail, le petit détail qui fera la différence sur les jugements. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Après, forcément, c'est pas la majeure partie de mon travail et je ne souhaite pas que ça le soit. Mais c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. En plus, c'est mon domaine à moi, donc...
Tu parlais de tes tarifs en présentiel qui sont quand même assez élevés, mais maintenant, tu fais ça depuis pas mal d'années.
Ouais, ça fait 4 ans maintenant, voilà. Et j'ai commencé en tant qu'étudiant entrepreneur, donc durant mes études.
C'est ça, et ça marche bien pour toi, donc évidemment, je suppose que tu as augmenté tes tarifs, mais il faut rassurer les gens aussi, c'est possible d'avoir un suivi en salle pour moins cher que ça, ça existe aussi.
Alors, je dirais qu'en 2024, oui, c'est possible pour les personnes qui sont potentiellement sortantes d'études. Après, il ne faut pas oublier que ça reste le coaching en salle, présentiel, avec quelqu'un qui te suit, ça reste un service de luxe. C'est, on peut pas le nier, on peut pas faire autrement, hein. Tout le monde ne peut pas sortir 520€ tous les mois,
non,
forcément, et d'où l'offre du coaching distanciel qui est beaucoup plus abordable pour tout à chacun, mais je me dis en comparaison à ce que les gens dépensent tous les mois pour de l'alcool, des sorties, des paquets de cigarettes, toutes choses dont ils pourraient et dont ils devraient pouvoir se passer, surtout la cigarette, qui n'apporte absolument rien finalement de positif. Je pense que c'est pas si cher. Honnêtement, c'est pas si. Je suis pas dans les prix les plus élevés, pas du tout même.
Je suppose qu'il y a pas mal de coachs quand même qui font n'importe quoi.
Oui.
À quoi est-ce qu'on les reconnaît, tu vois, c'est suivant le programme, etc. Où on constate que c'est pas génial ce qu'ils nous ont fait là.
C'est assez compliqué. Honnêtement, c'est assez compliqué parce que maintenant, on a la possibilité de faire énormément de choses et de cacher un petit peu ses preuves, hein, d'un bon ou d'un mauvais travail. Dans un premier temps, je dirais les résultats clients. C'est ce qui prouve que la personne a atteint ou non son objectif. Et également, n'aie pas hésité à demander à plusieurs personnes qui se sont fait coacher par ce coach en question si son coaching est correct, s'il fait les choses correctement, si c'est modulable, si les résultats suivent. Les tarifications aussi, ça joue énormément. Une personne qui demande des tarifications relativement basses, potentiellement, serait une personne qui sera moins compétente. Pourquoi ? Parce qu'elle va pas mettre autant d'énergie ou autant d'heures de travail pour une si petite somme d'argent qu'une personne qui pourrait potentiellement faire avec des tarifs plus hauts. Après, faut encore, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des personnes qui vont faire exactement la même chose qu'une personne qui va pas fournir beaucoup de travail, mais demander des tarifs super élevés pour en avoir un bénéfice encore plus important. Donc, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué.
Est-ce que les plus connus sont les meilleurs ?
Je connais énormément de coachs qui sont très connus sur les réseaux sociaux. Mais que personnellement, j'appellerai pas coach.
Ouais.
J'appellerai pas coach parce que ce qu'ils font, c'est bien souvent du copier-coller. Donc, ce qui est utilisé pour madame 50 kilos va être redonné pour madame 80 kilos. Alors que l'objectif est potentiellement différent. Les exercices doivent être différents aussi. Hein. Comme j'ai expliqué, on a tous une morpho-anatomie qui est propre à nous-mêmes et pas propre aux voisins. Et malheureusement, les personnes qui sont très connues ont souvent un marketing de tonnerre qui fonctionnent très très bien, ils savent très bien vendre leurs produits, mais sur le métier en lui-même, sont pour certains tout du moins très peu compétents.
Si tu donnes le même programme à Madame 50 et Madame 80 kilos, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes ?
Je ne vais pas donner un exemple comme ça parce que ça va rentrer un peu trop dans la théorie ou dans la pratique de la chose de façon biomécanique, et je pense qu'on perdrait pas mal d'auditeurs sur cela, mais...
Ça peut avoir des impacts sur la santé
des personnes. Ça va avoir.
Ah ouais, okay.
C'est sûr et certain que sur le moyen long terme, une programmation qui est adaptée à un individu A et qui n'est du coup pas adaptée à l'individu B va finir par blesser ou poser des problèmes à l'individu B. C'est sûr et certain.
Donc tu conseilles peut-être à certaines personnes du même coach de comparer les programmes,
oui,
et de voir si...
Oui.
Les programmes sont les mêmes.
S'il y a potentiellement des ressemblances.
Ouais.
Et si il y a... parce que les exercices, on en connaît plein, forcément. Il peut y avoir un développé couché qui est donné à deux individus, mais qui n'est pas fait de la même façon. Par exemple, je vais prendre... Je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais sur ce qu'on appelle une amplitude de mouvement. Donc une amplitude de mouvement, c'est tout l'axe sur lequel le mouvement va être fait. Donc sur cet axe-là, une personne va peut-être avoir... et là ça va rentrer dans le détail, mais des pectoraux courts ou des pectoraux longs, ben une personne qui a des pectoraux longs va pouvoir avoir un étirement peut-être un petit peu plus important, alors que sur des pectoraux courts on va devoir s'arrêter peut-être à la parallèle d'épaule. Et c'est tous des ajustements qu'il faut sur un même exercice. La pratique sera complètement différente entre un ou l'autre individu, dépendamment encore une fois de sa structure osseuse et musculaire.
C'est donc un métier où il n'y a pas de... on ne va pas te demander un diplôme ou quoi que ce soit. On te le demande souvent, toi ?
Non.
Voilà. Il n'y a pas d'accès à la profession.
Bien évidemment, on peut demander un diplôme, mais le diplôme ne fait pas tout. Je connais des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont extrêmement compétents, comme je connais des personnes qui, malheureusement, ont un diplôme, mais qui sont incompétents au possible, parce qu'ils n'ont pas suivi de formation complémentaire, ils n'ont pas décidé de se former en plus ou de se spécialiser dans quoi que ce soit. Et du coup, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué de savoir à qui faire confiance, qui ne pas faire confiance. C'est une histoire que j'aime bien raconter. L'année dernière, j'ai eu une connaissance qui est menuisier. Donc, un métier totalement autre que le mien, qui m'a envoyé un message pour me demander par quoi j'étais passé pour faire coach sportif, parce qu'il voudrait lancer son activité en plus de la menuiserie. Et qu'il voulait savoir par quoi passer, donc la banque centrale des assurances, enfin des indépendants, pardon, etc., etc. Et quand je lui ai posé la question, ouais, mais t'as fait quoi pour être coach sportif ? Fait, ouais, ça fait 5 ans que je fais de la salle. Et c'est bon.
Il n'avait jamais été suivi, je suppose.
Il n'a jamais été suivi, enfin pas à ma connaissance, tout du moins.
C'est
et
ça, ouais.
Il n'avait pas de connaissances à proprement parler, sur son expérience personnelle, bien comme tous les métiers.
Ouais, exact. Ça s'apprend. Via quoi alors ? Toi, tu as fait un format long,
hein, c'est ça.
En haute école, 3 ans, 4 ans, avec ton année de spécialisation.
C'est ça, exactement.
Mais en parallèle, il y a des formations.
Ouais, il y a des formations beaucoup plus courtes. D'ailleurs, j'ai racheté des parts d'une société qui s'appelle la Fitness Education, basée ici en Belgique, à Bruxelles, et du coup en janvier à Liège, où nous formons les futurs coachs sportifs, donc qui vont pouvoir accompagner les futurs clients dans le meilleur des cadres possibles. Et là, ce sont des formats courts. Nous avons deux principaux axes qui s'appellent les EREPS 3 et les EREPS 4, à savoir que EREPS, c'est une association qui répertorie tous les coachs qui y sont forcément fédérés en Europe complète. Donc, c'est reconnu partout en Europe. À partir du moment où on travaille, où on a son diplôme plutôt, d'EREPS, 3 ou 4, peu importe le pays dans lequel on travaille ici en Europe, on est considéré comme coach sportif. Ce centre de formation permet en 3 mois et demi, 4 mois, de pouvoir être coach sportif, d'avoir les bases pour pouvoir coacher de la meilleure des manières. Et forcément, comme on le précise à tous les élèves qui sont avec nous, il faut pouvoir forcément continuer à se former. Le métier veut, peu importe le métier d'ailleurs, normalement, il doit y avoir une formation continue, peu importe ce qu'on fait.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce taf ?
La diversité, énormément. Je ne traite jamais avec les mêmes personnes, les mêmes profils. C'est toujours quelque chose de différent. Je suis quelqu'un qui est passionné aussi d'anatomie et de biomécanique. Donc, je l'étais pas quand j'étais plus jeune. Je trouvais ça barbant. Et petit à petit, savoir comment un corps fonctionne, ce qu'un corps peut faire, et pouvoir adapter sur le moindre petit détail, en fait, ce qu'on peut apporter à une personne en ne changeant ne serait-ce qu'une position de coude ou quoi. Je trouve que c'est assez excitant comme travail, et la reconnaissance qu'on en a derrière d'avoir pu changer le mode de vie d'une personne, d'avoir pu l'accompagner dans des objectifs qu'elle n'était pas capable de faire seule, la reconnaissance et le remerciement qu'on a, ça en fait pour moi le plus beau métier du monde.
Est-ce que si je demande à l'intelligence artificielle de me composer un programme suivant mes mensurations, est-ce que il va me créer quelque chose de viable ?
Il va créer quelque chose de faisable, mais viable sur le long terme, non. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle n'a pas la possibilité de voir à quoi ressemble la structure osseuse et musculaire de la personne. Et donc forcément, elle va créer un programme totalement lambda dans le cadre de l'objectif de la personne. Donc prise de masse musculaire, perte de poids, remise en forme, peu importe sur le nombre de fois où on l'aura demandé. Mais ce n'est pas pour autant que ça va être personnalisé.
Ok, pas personnalisé.
Ouais, c'est en fait, il n'y aura pas de personnalisation, c'est simplement ça.
T'as déjà essayé, toi ?
On m'a déjà dit que les intelligences artificielles pouvaient générer des programmes. J'ai testé par curiosité pour voir la véracité de la chose. Assez déçu.
Déçu ?
Ouais, assez déçu.
Sur quel point ?
Sur Bah justement, sur le point de la personnalisation d'un suivi, je pense que quand on propose un service dit personnalisé, avec un montant qui est relativement conséquent pour tout à chacun, on doit amener la qualité. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma façon de... Si j'ai été éduqué ainsi, c'est ma façon de voir la chose. On doit amener la qualité qui ressort du montant qu'on demande. Et malheureusement, bah, les gens, à l'heure actuelle, c'est profit, 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 au détriment des personnes. Donc, c'est moins je fais, plus j'encaisse, et mieux c'est. Et malheureusement, c'est une pratique qui commence à avoir un petit essor et qui, j'espère, s'estompera relativement rapidement.
Qu'est-ce que tu dirais à une personne pas du tout motivée, mais où tu te dirais, bah voilà, elle se sentira mieux, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes qui sont pas du tout motivées de reprendre un sport ?
Je le jouerais plus directement sur une répercussion un peu plus frontale, dans le sens où faire du sport ou faire attention à son alimentation, c'est déjà ne serait-ce que diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, donc de 50%. C'est juste énorme. Quand on sait que maintenant les taux de décès sont grandissants un peu partout dans le monde et que les personnes qui font des activités physiques sont justement de moins en moins un peu partout dans le monde, le fait de faire du sport permet d'avoir une plus grande longévité, éviter tout ce qui va être maladie, avoir une meilleure également estime de soi et donc forcément des possibilités qui vont s'offrir à nous sur le plan privé et professionnel dû à l'acquisition de confiance en soi. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le sport devrait faire partie. Alors, je ne dis pas que tout le monde devrait s'entraîner 5 fois semaine. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tout le monde devrait pratiquer une activité sportive toutes les semaines. Absolument. Toutes les semaines. C'est super important. Ne serait-ce que pour sa santé.
Toutes les semaines, combien d'heures?
La moyenne demande 30 minutes par jour d'activité physique pour avoir un taux de santé, je vais pas dire optimal, mais correct. Donc, moi, je préconiserais, ouais, plus ou moins, 3h30 par semaine, c'est déjà pas mal, ce qui ferait une séance de 1h, 1h15 tous les 3 jours, trois fois par semaine, pardon.
Et les personnes qui n'ont pas de temps à consacrer à un certain sport, il y en a, hein, des personnes qui travaillent énormément et qui, quand elles rentrent, doivent s'occuper des gosses, etc. Comment est-ce qu'elles font ?
7 jours sur 7, j'ai du mal à me dire qu'une personne n'a pas la capacité de faire une activité physique. Je parle pas d'un sport, je parle d'une activité physique au minimum 3 fois par semaine. Ne serait-ce qu'aller marcher, c'est une activité physique. Bah, aller faire, je sais pas, une marche à Deps le dimanche, ça reste une activité physique. Le fait de bouger reste une activité physique. Il y a des personnes qui restent derrière un bureau de 8h à 16h, qui à 16h30 vont chercher les enfants, qui de 16h30 jusqu'à X heures, 19h, s'occupent des enfants, ensuite les laissent faire leur activité pour les mettre par la suite au lit, et pendant ce temps-là, se mettent devant Netflix et ne font rien. Ils peuvent très bien faire du sport à domicile. Un tapis, un hit sur YouTube, ou une programmation à domicile prise par un coach sportif, qui peut faire également des programmations à domicile, ça existe. C'est toujours envisageable. Personne ne demande de faire une heure et demie par jour. On peut très bien faire 30 minutes de sport, c'est totalement correct aussi.
Alors c'est intéressant, la marche, donc, c'est considéré comme une activité physique.
Bien sûr.
Mais si tu fais 30 minutes de marche par jour, comme c'est préconisé, est-ce que c'est assez, 30 minutes de marche? Non, il faut quand même des 30 minutes qui vont un peu plus loin pour aller chercher un peu de cardio ou...
Ça va dépendre de l'objectif de la personne.
Ok.
Si l'aspect est juste santé ou diminution des maladies, 30 minutes de marche, c'est suffisant. Si après, la personne me dit « Oui, mais j'ai envie de prendre un petit peu de muscle, un petit peu de masse musculaire. » Oui, forcément, la marche ne sera pas suffisant. Il faudra complémenter ça avec du renforcement musculaire. C'est indéniable. Mais dans l'optique d'une personne qui veut, par exemple, perdre du poids, avec une alimentation équilibrée, une personne qui était sédentaire au départ, ne serait-ce que déjà marcher 30 minutes par jour, ça rapporte. Donc, comme je le disais, la balance énergétique, ça augmente son activité. Donc, ça va augmenter le déficit calorique qui va pouvoir être émis. Donc oui, c'est totalement suffisant. Que pour perdre du poids, par exemple, ça peut être suffisant. Ce sera plus long, forcément. L'aspect esthétique sera peut-être moins bien parce qu'on ne crée pas de tissu musculaire. On ne fait que perdre du tissu adipeux. Mais ça va encore une fois dépendre de ce que la personne veut.
C'est intéressant de reparler de balance énergétique parce que tu te lèves, tu déjeunes donc avec un œuf, un peu de pain. Le midi, tu prends un sandwich. Le soir, viande, féculents, légumes. Est-ce que 30 minutes d'activité physique, c'est assez pour compenser ça?
Bien sûr.
Même de la marche, quoi.
Bien sûr. Tout va dépendre, encore une fois, de la quantité qui va être mise dans le plat. C'est qui ça. Va être mis dans le repas en question. Il mange des féculents, s'il mange 100 grammes de féculents ou 50 grammes de féculents, ça n'aura pas du tout le même impact sur son corps.
Exact.
Ça va dépendre également de la taille de la personne, du poids de base, de son métabolisme. Donc ce qu'on appelle un métabolisme, c'est le métabolisme de base, c'est comment le corps va fonctionner, ce qu'il va utiliser comme dépense énergétique pour pouvoir fonctionner de façon basique, banale. Donc les organes, le cœur, circulation, enfin... simplement le fait de vivre. À rajouter à ça, il faut rajouter l'activité physique, la profession, si elle est énergivore ou non. Donc forcément, une personne qui fait de la maçonnerie aura d'office un métier qui sera plus éprouvant et du coup brûlera beaucoup plus de calories qu'une personne qui est derrière son bureau dans un secrétariat, par exemple. Et donc tout ça, c'est des valeurs à prendre en compte pour définir les besoins énergétiques d'une personne.
Yoran, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur Instagram, au nom de Yoran Coaching. Et sur Facebook également, ou encore une fois sur mon adresse email, donc yorancoaching@gmail.com.
Merci beaucoup Yoran d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
C'était super bien, tu m'as un peu motivé à tenir mes bonnes résolutions, j'espère qu'il vous a motivé aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne, ça nous aidera bien. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission. Ciao.